Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, on va revenir sur une question cruciale pour grand nombre d'entre nous, la question du pouvoir d'achat et des salaires. Alors tout d'abord le constat, c'est que les prix s'envolent dans tous les domaines. Bien sûr, il y a les carburants, il y a l'alimentation, mais en fait, aucun secteur n'y échappe au prétexte que tous les produits sont transportés ou nécessitent pour leur transformation de l'énergie. Donc, dans tous les cas, on voit tous les prix s'envoler. Alors officiellement, à fin mai 2022, le dernier chiffre de l'INSEE, ce dernier chiffre annonçait une inflation de 5,2%. Mais on sait tous, et on le sait depuis longtemps, que l'inflation citée par l'INSEE est minimisée. Mais néanmoins, c'est le chiffre officiel à fin mai. Alors pour l'essentiel, les envolées sont liées à la spéculation, ne sont pas liées à une raison véritablement mécanique. On peut dire que l'occasion fait le larron et on le voit d'ailleurs avec la bourse qui elle s'envole au profit des actionnaires. Car il y a des grands gagnants. Citons entre autres Total, qui avait déjà dégagé des super profits historiques en 2021 et qui va battre le record des records en 2022 tel que c'est parti. Et il y a aussi le secteur de l'agroalimentaire qui spécule sur les céréales. Je dis bien qui spécule car quand on regarde où est produit le blé en Europe, on nous parle beaucoup de l'Ukraine, mais le premier, je l'avais déjà dit, le premier pays d'Europe producteur de blé et de loin, c'est la France. C'est la France qui exporte 47% de sa production. Donc elle produit davantage de l'Ukraine que l'Ukraine, pardon. Elle exporte davantage. Donc si ça, c'est pas de la spéculation derrière tout ça avec l'augmentation des prix en France, il y aurait pas d'autre explication que celle-là. Donc c'est bien de la spéculation. Alors, pour revenir au pouvoir d'achat, il faut faire attention aux gadgets pour faire semblant. Et là, bien sûr, je pense aux mesures annoncées déjà depuis quelque temps par le président Macron, hein, ces gadgets qui ne traitent pas le sujet efficacement. Hein, Macron se comporte en commercial, c'est pas moi qui le dis, c'est François Ruffin, mais l'expression me plaît assez. En commercial de supermarché qui propose des bons cadeaux. Ces bons cadeaux sont tout à fait inefficaces dans la durée, bien sûr, et ils sont démagogiques. Inefficaces car ils ne sont pas pour tout le monde déjà et pas reproductibles chaque mois. Ils sont démagogiques car ils brouillent les données du problème. Les travailleurs ne réclament pas la mendicité, mais leur juste part dans la production des richesses. C'est le sujet central, en tout cas ça devrait être le sujet central. Alors il y a aussi la question de la TVA, qui est un impôt important en France, puisqu'en termes de financement de nos services publics, c'est le premier hein, en volume devant l'impôt sur le revenu. Et cette TVA est l'impôt le plus injuste, le plus inégalitaire, car il ne tient pas compte des ressources des ménages. Donc baisser la TVA pour les produits de première nécessité est une bonne réponse, à condition, et là la condition est importante, à condition de taxer davantage les très riches. Alors bien sûr, je pense au rétablissement de l'impôt sur la fortune, mais on peut aussi imaginez une TVA plus importante sur les produits de luxe, hein, ça a existé, car le grand danger, c'est de finalement réduire les moyens des services publics. Et là, effectivement, il y a deux logiques qui s'affrontent. Réduire encore le service public au profit du privé, c'est le cas de le dire, au profit du privé, ou finalement aider encore nos services publics pour avoir des services publics de qualité. Et donc là, il faut revoir complètement le financement. On peut effectivement et on devrait baisser la TVA, mais il faut trouver d'autres ressources en direction des ultra-riches. Pourquoi pas ? Ce serait quand même pas si mal pour que finalement nos services publics puissent continuer de fonctionner. Et je le dis avec d'autant plus d'importance, d'insistance, que là-dessus, c'est pas la même chose selon les différents partis politiques. On le voit par rapport à la santé, qui est quand même gérée depuis au moins 5 ans par notre deuxième et toujours président Macron. Donc il faut des moyens pour le service public, il faut pas seulement dans la santé. Et ceux qui proposent de réduire la TVA sans proposer autre chose à côté ont quelques idées derrière la tête en matière d'aller encore plus loin pour casser le service public. Alors un autre sujet, c'est la question qui est aussi posée du blocage des prix. On tente de nous faire croire que ce sera une mesure surréaliste, une mesure illégale, pourquoi pas, alors qu'elle est prévue, dans le Code du commerce. Et elle a déjà été utilisée. Alors j'ai retrouvé le gouvernement de Raymond Barre quand il était Premier ministre à la fin des années 70. Il y avait eu un blocage généralisé sur la plupart des prix de première nécessité. Donc c'est pas si vieux tout de même. Et ça s'est réalisé. Il y a eu aussi des blocages de prix ciblés qui ont déjà eu lieu dans notre histoire plus récente. Donc c'est pas non plus extravagant de parler de blocage des prix. Les textes le permettent et ça s'est déjà fait. J'en viens à la solution la plus efficace, c'est celle des salaires et du rôle central du SMIC. Le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, a été précisément créé pour réguler l'équilibre entre capital et travail. En 68, le SMIC a fait un bond en avant du jour au lendemain de plus 35%. Et donc là, c'était le rapport de force. Pourtant, les jours précédents, le pouvoir en place nous expliquait avec le patronat qu'une augmentation du SMIC était impossible. Et il a pourtant fait un bond de plus 35% dans le contexte donc des luttes des travailleurs de l'époque. Donc je le cite parce que c'est possible, tout simplement. Alors il y a quelques manipulations de langage dont je voulais vous parler aussi à propos du SMIC. On entend régulièrement « le SMIC a été augmenté de ». Ce n'est pas exact. Le mécanisme de fonctionnement du SMIC est qu'il doit être réévalué à chaque fois que l'inflation officielle dépasse les 2%. Donc dans les semaines qui viennent, on entendra augmentation du SMIC, alors que c'est un ajustement automatique avec l'inflation officielle dès lors que ça dépasse de 2%. Moi, je n'appelle pas ça une augmentation, j'appelle ça un réajustement, mais pour qu'il y ait augmentation, faudra un minimum que ça dépasse le niveau de l'inflation est tel que c'est parti, c'est peu probable. Donc en fait, on entend augmentation, mais c'est rattrapage partiel, c'est tout à fait différent. Alors parler du SMIC, c'est aussi parler des grilles de salaire, on l'oublie trop souvent, car l'augmentation du SMIC devrait décaler vers le haut l'ensemble des grilles de salaire. Mais voilà, il y a un mécanisme qui le permet, qui s'appelle l'échelle mobile des salaires, dont le gouvernement et d'ailleurs les précédents aussi ne veulent pas. Logiquement, le SMIC devrait permettre, avec les grilles de salaire des conventions collectives, d'augmenter l'ensemble finalement des populations qui ont une technicité reconnue à travers leurs conventions collectives. Je le dis parce que c'est comme ça que ça a été conçu au départ. Sauf que ce n'est plus appliqué depuis bien longtemps. Mais en tout cas, le mécanisme, il existe, il a été perdu, il a été oublié, mais il est en tout cas sur le papier. Alors un autre aspect, bien sûr, quand on parle de salaire et de pouvoir d'achat, c'est d'en finir avec la précarité. Cette précarité qui a augmenté sous Macron, là, les 5 dernières années, hein, qui était déjà bien partie avant, mais qui prend de plus en plus d'importance. Aujourd'hui, 80% des embauches qui sont proposées, et même plus de 80%, sont des emplois précaires. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Cette précarité qui entraîne la misère avec du travail en pointillé et qui entraîne aussi la surexploitation. J'entends par là l'acceptation de l'inacceptable. Alors, parler de salaire, c'est aussi ne pas oublier les non-salariés. Je ne les oublie pas, puisque logiquement, les pensions devraient suivre. Et on l'avait vu en 68, on l'a vu à d'autres époques, une augmentation générale des salaires. En fait, les travailleurs dits indépendants, qui sont pas toujours indépendants d'ailleurs, les travailleurs indépendants, finalement, par effet d'entraînement, peuvent en profiter et en profitent en général. Donc il y a cet effet d'entraînement qu'il ne faut pas négliger et surtout pas opposer non salarié à salarié. Ce serait une erreur de diviser finalement le monde du travail. Pour terminer, je voulais rappeler qu'il y a des sous. Il y a des sous dans notre pays. Au bilan 2021, l'indice boursier du CAC 40 a progressé de plus 29%. Donc j'imagine que vos salaires et vos revenus n'ont pas progressé de plus 29% en 2021, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Si l'on prend les 500 plus grandes fortunes françaises, on pourrait, j'avais fait le calcul, avec leur fortune, augmenter de 500 euros les 20 millions de foyers les plus pauvres, sans que cela les fasse boiter, ils resteraient encore ultra riches. Vous voyez qu'il y a de l'argent en France, reste à savoir dans quelle direction on la met. En résumé, ce qu'il faut, c'est une augmentation générale des salaires, des pensions, et pas un saupoudrage de mesures ponctuelles et, au bout du compte, inefficaces. Voilà pour cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, et je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Clébus.
C'est le public de jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour. Oh.